Livres, BD,
films, musique,
jeux, spectacles.
Tu cherches, tu hésites, tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM.
Bonjour Léo.
Bonjour Jacqueline, bonjour tout le monde.
Et voilà, nouvelle émission du chaudron. Et cette émission, je la fais avec Léo parce que il m'a prêté un bouquin. Et comme souvent à Barthas, magie de la rencontre, des idées qui commençaient à germer dans ma tête ont trouvé écho dans ce livre. Mais avant d'en dire plus sur cet ouvrage, écoutez ceci.
Je m'appelle Marie-Laure Leroy, je suis à l'hôpital de Pontchaillou, je ne sais pas à l'heure qu'il est, bien évidemment j'ai pas dormi. Je suis la mère d'un gilet jaune qui a été blessé à la fin de la manifestation.
Putain.
Monsieur Macron, pendant que vous faites le malin en bras de chemise dans les gymnases, pendant des heures, en soliloquant, parce qu'il est vrai que vous aimez surtout parler seul, pendant ce temps-là, vos sbires, monsieur Macron, mutilent nos jeunes. Ces jeunes, j'insiste, ne présentaient aucun danger. Combien de mutilés parmi nos jeunes va-t-il encore falloir avant que vous vous rendiez compte, monsieur Macron, que diriger un pays, ce n'est pas se tenir en haut de la verticalité que vous vantez tant. C'est peut-être de temps en temps se pencher sur les gens et écouter réellement ce qu'ils ont à dire. Je ne suis pas en colère, je n'ai même aucune haine. J'estime que vous n'êtes ni digne de ma colère, ni digne de ma haine. Je suis juste écœurée.
Cette femme devant l'hôpital de Rennes est la mère de Gwendal qui vient de perdre un œil aux bons soins de la police. Et avec une grande dignité, elle s'adresse au président de la République. Dans ce film documentaire, un pays qui se tient sage, alimenté par beaucoup de captures par portable, mais pas que, le réalisateur David Dufresne dit, je le cite, le film questionne cette définition de Max Weber, l'État revendique le monopole de la violence physique légitime. Qu'est-ce que l'État ? Point d'interrogation. La violence légitime ? Point d'interrogation. Partout à travers le monde, les femmes et les hommes ont toujours eu besoin de dire leurs souffrances, leurs revendications. Les grèves, les manifestations ont pour objet de se faire entendre. Et si on associe manifestation à une pensée plutôt de gauche, celles-ci ont parfois été à l'initiative de personnes aux idées contraires. Exemple dont on a parlé au Chili, c'est la bourgeoisie qui a arpenté les rues de Santiago pour soi-disant réclamer de quoi manger dans le but de discréditer Allende, mais qui survivait sans problème grâce au marché noir. Également, en mai 68, la droite est descendue dans la rue. Le 30 mai, il y eut une marche de soutien au général de Gaulle. Mais bon, globalement, la grève et les manifestations cherchent à améliorer une situation politique, économique, sociale et aussi environnementale, donc peut-être pas vraiment de droite. Et du moins en France, c'est un droit. En amont donc de cet ouvrage, qui s'intitule « Hacker Protesteur », guide pratique des outils de lutte citoyenne de Geoffroy Dorme, publié en 2022 et donc dont je vais parler avec Léo, on peut se rappeler certaines luttes qui restent en mémoire et ont eu un réel impact. Sans être exhaustive, et si l'on reste en France, quelques mouvements ont fait date, comme la Commune en 1871 ou plus tard mai 68. Mais bien sûr, d'autres luttes moins documentées ont existé, comme celle des Sardinières à Douarnenez en 1924, des femmes qui osèrent demander une augmentation de salaire pour un travail plus que pénible. Plus tard, des films ont relaté des luttes et revendications. Et c'est important car c'est un travail contre l'oubli, je dirais contre l'apathie, qui pourrait bien nous contaminer en ce moment. Ainsi, René Vautier, cinéaste souvent censuré, auteur d'Avoir 20 ans dans les Aurès, a filmé de nombreuses manifestations et travaillé à la recherche de la vérité. Ainsi, entre autres, car il a été prolixe, et pour exemple, en 1975, quand tu disais, Valérie, un documentaire sur la grève des ouvriers de l'usine de fabrication des caravanes à Trignac, en Loire-Atlantique. Ou encore, Marée noire et colère rouge, en 1978, sur le naufrage de la Moco Cadiz dans le Nord Finistère, qui fut une énorme catastrophe écologique. Ces films dénoncent les mensonges des politiques, voire de certains scientifiques, et montrent la force des mobilisations. Un autre film, Des pierres contre des fusils, sorti en 1980 de Nicole Le Garec, film restauré d'ailleurs en 2019, retrace la lutte contre l'installation d'une centrale nucléaire à Plogoff, Finistère Sud, entre 1975 et 1981. Et bien sûr, plus près de chez nous, le film « Tous au Larzac » de 2011 par Christian Rouault, qui retrace une lutte qui dura de 1971 à 1981 contre l'extension du camp militaire. Ces luttes ont convergé. Les Bretons sont allés soutenir le Larzac. Exemple de cette drôle d'affiche, Gardarem Plogoff. Et d'ailleurs, à propos de mémoire, en 2020, l'association Plogoff Mémoire d'une lutte lance un appel à continuer la lutte antinucléaire.
C'est le genre de choses qui prouvent bien que l'action, à partir du moment où elle est populaire, non violente et déterminée, fait beaucoup plus avancer les débats d'idées et les combats que juste de simples réunions, des meetings, etc., qui n'ont jamais changé grand-chose. Il faut vraiment être sur le terrain. Le Larzac a su inventer cette forme d'action originale qui à la fois est médiatique et à la fois pose bien les problèmes de manière à ce qu'il soit bien compris par tout le monde. Et qu'il fasse voir aussi qu'il y a une détermination. C'est-à-dire, si on est prêt à aller en prison, c'est que quand même, le problème, il est important. C'est la même chose que ce qu'on disait sur le jeûne, etc. C'est la non-violence qui permet de poser les questions de façon forte. Et là, on a vraiment réussi le coup, alors qu'on n'avait pas forcément prémédité aussi loin, quoi.
Et puis, bien sûr, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Une histoire qui avait démarré en 1965. 50 ans de lutte avec moult rebondissements. Temps mort, grève de la faim, référendum, cafouillage politique, violence policière, expropriation et enfin, le 17 janvier 2018, abandon du projet. Le Larzac a inspiré Notre-Dame-des-Landes tant par la diversité des populations mobilisées que par les stratégies employées. Des brebis du Larzac emmenées sous la tour Eiffel à « la vacherie », entre guillemets, vache, plus loin, RIT, à Notre-Dame-des-Landes, lieu de rencontre, de production, de création dans la zone à défendre, l'imagination n'a pas manqué. Notre-Dame-des-Landes, où des médecins ou soignants intervenaient régulièrement auprès des blessés et où une vie collective s'est organisée, soutenue par les habitants de la région, avec fêtes, marchés, manifestations. La lutte de Notre-Dame-des-Landes est très documentée. De nombreux films, livres ont été produits. Un film, entre autres, retrace cette expérience incroyable que fut cette ZAD. C'est Le Dernier Continent de Vincent Lapize, documentaire filmé de 2012 à 2014. Un documentaire radiophonique également très intéressant dans Affaires sensibles sur France Inter, une émission du 16 septembre 2024, fait un récapitulatif de cette longue histoire et nous amène vers des luttes plus récentes, dont malheureusement certaines marquées par des tragédies, comme la mort de Rémi Fraisse dans la lutte contre le barrage de Sivens, ou les nombreuses blessures infligées aux Gilets jaunes, ou aux manifestations de Bure, ou encore les méga-bassines ou la 69.
Dédi la forêt, y'a un rio qui raja, dédi la forêt. Y'a un rio qui raja, ay mama, si sabies, comme le rio faisait en verge, ay mama, si sabies, comme les gens si souraient comme pas, voulez tout compas, la terre est lisambrée, voulez tout compas, la terre est lisambrée, ay mama, si sabies, comme le rio faisait en verge, ay mama, si sabies, comme les gens si souraient comme pas, voulez tout compas, dédi l'oubous la di, voulez tout Lubuskaji, ay mama, se sabies, como el rio fazia em vez.
budget si souré comme pas.
Fouillez pas Bastille, la grandeur reste encore. Fouillez pas Bastille, la grandeur reste encore. Fouillez en Berlin, c'est qu'en sud est tada. Fouillez en Berlin, c'est qu'en sud est tada. Si sous ma reine, passez ma couille. Ramassez sa pièce, vous m'en bien d'amouille. Aïe maman, c'est sa bièce, comme le riz ou fasier un veg. Aïe maman, c'est sa bièce, comme les jessis souris comme pauvre. Aïe mama, c'est sa bièce, comme les jessis souris comme pas.
Si sous un terrain, faire un pacha nous t'appelé. Si sous un terrain, faire un pacha nous t'appelé. Aïe mama, c'est sa bièce, comme on nourrit ou fasse un vege. Aïe mama, c'est sa bièce, comme les jessis souris comme pas. Les messes en passant, amanda l'armada. Les messes en passant. Si souris comme pas. Les cris d'une coustade et l'autre et les grenades. Les cris d'une coustade et l'autre et les grenades. Des dîmes la foulaise, y'a des plouques et la tourne. Des dîmes la foulaise, ta femme tombe à nous fraisser. Aïe maman, oublie d'un pas, l'ou nous d'un pas, on est rémi fraisser. Aïe maman, oublie d'un pas, l'ou nous d'une jouve sacrifica.
Eh oui, ce ne sont pas les situations révoltantes qui manquent, les projets inutiles, les propositions de loi liberticides ou écocides, qui, parfois ouvertement ou d'autres fois discrètement, envahissent notre quotidien. La manière de se faire entendre a évolué autant que les réponses de la part des autorités. Et ce sont ces dernières mobilisations qui ont mis en exergue les risques encourus à descendre dans la rue, à savoir blessures, mutilations, morts, dans notre cher pays des droits de l'homme. Alors, ce livre donc, Accord Protesteur, se veut un guide pratique de la manif. Les propositions concrètes s'inspirent d'expériences de manifestation dans plusieurs pays, dont d'ailleurs beaucoup à Hong Kong. Alors Léo, comment t'es-tu procuré ce livre ?
Je vais devoir remettre le contexte assez loin en arrière. Il faut savoir que j'ai grandi du coup dans un petit hameau en Lozère, des parents pas du tout militants. Du coup, j'ai pas du tout grandi entouré de manifs. Et c'est que bien plus tard, je suis arrivé à la fac en Normandie, je devais avoir 23-24 ans. Et c'était la même période que les débuts des Gilets jaunes. C'est là où j'ai rencontré mes premières manifs, à la fac, Gilets jaunes, et c'est un sujet que je connaissais pas. J'ai toujours, toute ma vie, j'ai demandé mais qu'est-ce que c'est, pourquoi, et j'avais pas de réponse forcément. Donc arrivé à 23 ans, je commençais à me poser des questions et à me renseigner sur qu'est-ce qu'une manif, pourquoi ça a lieu, là pourquoi les gens manifestent aujourd'hui à côté de chez moi, et même à la fac ça commençait à bouillonner un peu. Parce qu'il faut rappeler que c'était l'époque aussi des débuts de la retraite. Il y avait des blocages de la fac pour les enseignants. Il y avait plein de choses. Il y avait au moins trois gros combats en même temps. Les luttes pour le climat, les grandes marches pour le climat aussi. Et du coup, en me documentant, je suis tombé très vite sur un monsieur qui s'appelle David Dufresne, qui est un journaliste qui a beaucoup travaillé sur la répression policière dans les manifestations. Et il a monté sur internet une émission qui s'appelait Au Poste. Je ne sais pas si elle existe encore, il faudra que je revérifie. Et dans cette émission Au Poste, il faisait venir des gens qui écrivaient ou qui créaient du contenu autour de la manifestation, de la répression policière et tout ça. Ce jour-là, je suis tombé dessus, c'était Geoffrey Dorn, l'écrivain de Hacker Protesteur, qui était là pour présenter son livre qui venait de sortir. Et il l'a très bien vendu au point où je me le suis procuré, je l'ai prêté à de nombreux amis. Et c'est un livre qui j'essaie de faire circuler le plus possible.
Et voilà. Et donc, effectivement, David Dufresne, qui intervient dans ce livre, qui est aussi donc l'auteur du film « Un pays qui se tient sage », voici ce qu'il dit. « Dans le code pénal, une violence effectuée par ce qu'on appelle une personne dépositaire de l'autorité publique, c'est une circonstance aggravante. » Ah, tiens. « Aujourd'hui, il y a une industrie militaro-policière mondiale qui se met en place avec des conséquences terribles dans le croisement du capitalisme et de la surveillance. » Alors, ça t'inspire quoi, ça, Léo ?
Alors, dans tes mots, il y en a deux qui me semblent très importants, c'est le mélange militaro-policière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en manifestation, on se retrouve face à une police en face, mais qui va être de plus en plus militarisée. On se retrouve à faire du maintien de l'ordre avec des armes militaires. Ces 10 dernières années, leur équipement a évolué sans cesse et on a bien souvent l'impression que les formations autour aussi de ces équipements ne suivent pas forcément. En manifestation, on se retrouve plus facilement entouré donc d'armes de guerre. Il y a aussi un autre dialogue qui circule beaucoup, c'est autour de la répression et des procès d'intention. Quand tu vas arriver en grande ville, dans des manifestations avec de quoi te protéger contre des gaz lacrymogènes, on va penser à un masque, on va penser à des lunettes, on va penser à ce genre de choses-là, que la police a le droit, les journalistes ont le droit, un manifestant, ça va être jugé en procès d'intention comme un casseur ou quelqu'un qui veut aller directement aux affronts et non pas se protéger. Il y a un détournement des armes, on détourne les moyens de défense des militants et à côté, la police est de plus en plus armée. Et ça, j'avais une anecdote, il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé dans une salle d'attente de médecin et en face de moi, je lève les yeux, il y avait une personne en train de lire un livre qui m'a un peu tapé dans l'œil et il s'appelait 1984 de George Orwell. C'était il y a quelques mois et j'étais là, ah oui, c'est vrai qu'il y a des bonnes littératures encore qu'il faut ressortir du placard et se replonger dedans, même aujourd'hui, surtout aujourd'hui.
Ouais, et alors, on va écouter quelque chose là, parce que c'est vrai qu'on est plutôt du côté des manifestants, vous l'avez remarqué, mais quand même, et écoutons ceci.
J'ai demandé à intégrer un service d'enquête. Et je me suis découvert à l'époque un vrai intérêt pour l'investigation. Et j'étais plus dans la rue. Et du coup, cette espèce de colère que j'avais tout le temps, en fait, cette colère a diminué quand je me suis rendu compte qu'en face de moi, j'avais des êtres humains, quoi, et plus en face de moi des ennemis. J'avais des gens qui avaient commis des infractions, ce qui a beaucoup, beaucoup changé mon point de vue et ce qui m'a enlevé une part de la haine que j'avais, parce qu'au fond de moi, il y avait de la haine. Et ça m'a poussé vraiment à me poser la question de ma violence, à réfléchir à mes actes, parce que si au fond j'étais relaxé, au fond de moi je savais bien que plusieurs fois j'ai dépassé des limites.
D'où vient cet extrait, Jacqueline ?
Alors ça vient de Arte Radio, c'est une interview, vous l'avez compris, d'un ancien policier qui visiblement à certains moments n'a pas hésité à servir de je sais pas, de ses poings, de ses armes. En tout cas, il a un petit peu abusé de sa force et qui reconnaît en fait cette montée en puissance de la violence. Voilà. Alors, chapitre 2, dans le chapitre 2 de ce livre, il y a Olivier Lorelli qui est un expert en logiciel libre et qui pose un certain nombre de questions sur les outils de surveillance électronique. Alors, il y a des mots, moi, que je ne connaissais pas. Alors, la loi Adopi, pas trop. IMSI catcher, pas du tout. Chiffré, enfin voilà. Donc là, je vais m'adresser à Léo et... est-ce que le charabia technico-informatique te parle ?
Je vais encore reparler de moi un peu parce que j'ai grandi aussi dans une époque où cette informatique s'est développée et j'ai été plongé dedans très tôt. Alors oui, Adopi, ça me parle. C'est la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. En gros, ça a été mis en place pour surveiller, fliquer Internet, histoire de protéger les œuvres sous licence et les droits d'auteur. Disons que ça va être de la musique, des films. Et tu vas me dire, est-ce que c'est sur tout Internet ? Non, du coup, Adopi se concentre sur la seule chose qu'elle peut faire. Ça va être, du coup, c'est le téléchargement illégal de... Ça va être surtout, oui, du coup, films, jeux, tout ça. En peer-to-peer, qu'est-ce que c'est le peer-to-peer ? C'est quand tu as plusieurs personnes qui se retrouvent avec un même fichier sur leur PC. Et pour le mettre à disposition des autres, ils vont le mettre à disposition des autres. Et si une personne veut le télécharger, il va en prendre un petit bout chez une personne, un petit bout chez une autre. Et du coup, tout le monde se retrouve dans un petit cercle à avoir le même fichier en commun et à s'agrandir. Et plus tu es nombreux, plus c'est rapide, plus c'est efficace. Je vais le synthétiser comme ça. Du coup, oui, c'était l'outil de téléchargement le plus utilisé à l'époque de Adopi pour le piratage d'œuvres sous licence. Et Adopi n'a pas vraiment été utile même pour lutter à ça. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Le trafic d'œuvres en ligne a continué de plus belle pendant toutes ces années. L'outil gouvernemental Adopi, du coup, a été plus mis en place pour faire de la prévention que du contrôle parce que le peer-to-peer a pu continuer. Il suffisait juste que les personnes qui l'utilisaient utilisent encore un autre jargon que tu comprendras pas, un VPN.
Oh,
un réseau privé virtuel. En gros, c'est comme si dans le réseau, on t'indique que ton ordinateur, toutes tes informations sont à un autre lieu. On va changer toutes tes informations de connexion. Tu vas passer par différents petits réseaux. Bref. Du coup, ça a rendu Adopi complètement un peu caduque, ça c'était plus très utile. Pour t'expliquer maintenant, un IMSI Catcher, c'est un autre outil un peu plus effrayant, beaucoup plus effrayant qu'Adopi. C'est un appareil qui va s'insérer du coup entre un opérateur téléphonique et un téléphone portable en simulant une antenne relais. Ça va lui permettre d'obtenir toutes les informations, enfin surtout déjà à la base les informations IMSI, c'est les informations sur à qui appartient ce numéro, et en gros c'est les données clients de l'opérateur. Mais ça c'était la phase 1, après ils se sont améliorés, ils ont fait de mieux en mieux pour choper de plus en plus d'informations entre l'antenne et l'opérateur du téléphone. Officiellement son usage il est illégal en France, officieusement il a été utilisé à partir de 2013, il y a eu des accusations visant les services de renseignement français pour usage illégal. L'IMSI Catcher permet d'obtenir facilement l'IMSI, ça je l'ai expliqué, mais aussi du coup utilisé en plus avec certaines clés de déchiffrement, elle permet de faire une écoute de conversation en direct, enfin en quasi direct avec un tout petit différé, le temps que ça déchiffre. Il permet d'accéder à la position exacte des téléphones d'un téléphone portable qui est connecté à l'antenne relais de l'IMSI Catcher. C'est un appareil aujourd'hui un peu ancien, il date des années 90, mais il est quand même utilisé et très d'actualité. J'ai eu des chiffres en 2021, on en aurait à peu près en moyenne une centaine officielle en France, entre la défense, les renseignements, la douane. Il n'y a pas vraiment de moyens de défense contre les IMSI Catcher, il y a des moyens de savoir si on est sous surveillance ou écouté. Toute la liste elle peut être retrouvée en ligne, je mettrai des liens en plus. Du coup, vu que je te disais que c'est un matériel un peu daté, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore plein d'autres moyens, même peut-être plus simples que ce genre d'appareil pour mettre sur écoute des téléphones portables.
Et qui ne sont pas forcément connus du grand public, on va dire, entre guillemets. Quoi.
C'est ça.
Mmh, d'accord. Bien. Alors, si moi, je dis des bêtises avec des amis, que je fais du second degré, je prends des risques, alors ?
Bon, je pense pas que ce genre d'appareil soit utilisé forcément pour viser tout un chacun. Ça va être utilisé pour de la répression, pour des. Je pense que déjà que c'est illégal à l'utilisation, il faut vraiment justifier l'utilisation de ce genre d'appareil. Mais personne n'est à l'abri forcément.
Gardien de la paix, tu es sûr que c'est bien elle que tu gardes. Derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on a bavard. Es-tu sûr d'avoir choisi le bon camp? Rêves-tu vraiment à ça comme t'étais enfant? Si t'avais choisi ce métier pour protéger les gens, pourquoi es-tu ici en train de protéger protéger leur argent. Gardien de la paix, tu es sûr que c'est bien elle que tu gardes. Derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. S'il continue comme ça, réduire la forêt à néant, que restera-t-il de la terre pour nos enfants? Si tu restes là, oui, si tu les défends, tu cautionnes la folie de tous ces truands. Gardien de la paix, tu es sûr que c'est bien elle que tu gardes. Derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Regarde comme on vit, regarde comme on y croit, en construisant l'avenir dans des cabanes en bois. Crois-tu vraiment que c'est nous qu'il faut combattre? En faisant ça, c'est l'utopie que tu matraques. Regarde comme tu es bien plus armé que nous, avec tes grenades contre nos cailloux. Si tu nous tabasses, si tu t'en balances.
Alors, dans le troisième chapitre, ce livre parle de l'association La Quadrature du Net. Et ça parle du caractère exponentiel des demandes de retrait de contenu de Facebook, Twitter, Google. Ça parle de drones, de micros sur caméra. Les auteurs disent « Il y a 10 ans, on regardait Internet comme un nouvel outil pour coordonner les luttes et rencontrer d'autres militants. Aujourd'hui, nous revenons sur ce constat. Il faut trouver une façon de militer qui soit pérenne et moins dépendante d'outils se situant entre les mains de puissances économiques et sous l'influence des États. Nous avons besoin de retrouver ces savoir-faire de mobilisation beaucoup plus traditionnels et qui s'inscrivent à l'échelle physique, à l'échelle des corps, à l'échelle locale, de la rue, du quartier, de la ville. À la question « Si vous deviez mener à bien une révolution, avec quel outil partiriez-vous » voici leur réponse. Un grand rouleau de papier, un feutre noir et de la colle. Une bombe de peinture pour écrire directement sur les murs.
Pour te donner un peu plus d'informations sur la Quadrature du Net, c'est un site que je conseille, c'est une asso géniale, et ils ont un site internet que je conseille à beaucoup de gens d'aller visiter. Ils existent depuis 2008, et si c'est pour vous intriguer, ils font de la veille sur tout ce qui se passe actuellement au niveau des lois en France, au niveau de l'Europe, un peu partout dans le monde, pour vous informer des libertés que vous perdez à droite à gauche liées au numérique. Là, les premiers titres que je peux vous ressortir, le premier contre la loi surveillance et narcotrafiquage, en plein milieu du tumulte médiatique sur le trafic de drogue, une loi relative au narcotrafic est en train de passer au Parlement. En réalité, ce texte ne s'applique pas seulement à la vente de stupéfiants. Un deuxième titre, loi simplification, un déni de démocratie pour mieux imposer les data centers. L'Assemblée nationale a débuté l'examen du projet de loi relative à la simplification de la vie économique. Son article 15, ce projet de loi simplification ou PLS prévoit d'accélérer la construction d'immenses data centers partout en France. Donc je vous laisse découvrir ça tranquillement, il y a plein de choses à faire. Tu me demandais aussi si moi j'avais des outils. Tu ne me l'as pas demandé.
Non, mais
je te laisse me le demander.
Bah, c'est comme si je te l'avais demandé. Hein, voilà.
Si je peux te dire aussi, moi, ce que je prendrais en cas de révolution. Il y a pas mal d'outils très importants pour faire une révolution. C'est certain que écrire, c'est pas mal, comme il disait, des feutres noirs et de la colle. Mais je dirais que le chant, elle est à peu près tout autant. Faire passer des chansons dans la tête des gens, c'est bien. Donc partir avec un bon petit bouquin de chants révolutionnaires, ça doit pas être trop mal. Et depuis que je suis arrivé à la radio, je l'aurais pas dit avant, mais je trouve que la communication par radio, c'est quand même vachement simple, très facile, accessible à tout le monde. Et ça permet de faire, même si tout le monde peut écouter une onde radio, permettre la communication de manière générale, partir avec une radio, c'est bien. Émettre, c'est bien.
C'est bien. Alors, on continue. Dans le chapitre 4, Paul Rocher, économiste diplômé de Sciences Po, a écrit le livre « Gazer, mutiler, soumettre » en 2020 de la Fabrique Édition. Et voici ce qu'il dit. Contrairement à ce discours qui promeut l'idée que les armes non létales conduiraient à un maintien de l'ordre plus doux, plus éthique, plus humain, c'est tout le contraire qui se passe. C'est la disponibilité même de ces armes non létales qui amène à la brutalisation de l'ordre. Il ajoute plus loin qu'une enquête approfondie de l'ACAT, alors ACAT, Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, parue en 2020, démontre que les manifestants ne sont pas plus violents qu'il y a 10, 20 ou 25 ans. L'utilisation d'armes non létales déresponsabilise le fait des tireurs, de même que les manifestants ont l'interdiction de filmer les policiers. Ces derniers sont équipés de caméras piétons. Petite parenthèse, dans un article de la revue Social Terre d'octobre-novembre 2020, Paul Rocher complète ses informations. Alors, c'est ouf, technique, hein. Il précise que le flashball introduit en... Flashball, introduit en 1975, a été remplacé par le flashball Super Pro, puis par le LBD 40 en 2009, et en 2011 a été introduite la grenade assourdissante qui fonctionne comme une bombe à fragmentation, car en explosant, elle libère du gaz, mais aussi sa coque se transforme en projectile, pouvant causer de graves blessures. Il cite également une chercheuse de Berkeley, je vais vous lire un extrait de cet article, de cette chercheuse. Une chercheuse de Berkeley a récemment calculé que l'utilisation des balles en caoutchouc serait létale dans 18% des cas, lorsque celles-ci atteignent leur cible. Les producteurs français de ces armes avancent que la non-létalité est conditionnée au respect des consignes d'utilisation. Il s'agit d'un discours fallacieux, car ces fabricants imaginent des situations dignes de stands de tir, c'est-à-dire une cible statique située à une dizaine de mètres avec une bonne luminosité. Mais ces cas ne correspondent jamais au contexte réel des manifestations où les individus sont mobiles, la luminosité variable et où le tireur est en situation de stress et incapable de juger de la distance de sa cible. Cela n'a pas de sens de parler d'une arme comme d'un objet seulement technique sans la resituer dans son usage humain. De ce fait, l'usage non létal ne peut être assuré dans le cadre d'un maintien de l'ordre. Preuve en a été faite lors de la crise des Gilets jaunes où, selon le décompte du journaliste David Dufresne, le bilan est de 5 mains arrachées, 25 éborgnées et quand même 2 décès. On se croirait dans un jeu vidéo, hein, Léo.
Je pointerai pas du doigt les jeux vidéo pour le coup. Ils sont loin d'être seulement violents, c'est de démesure. Par contre, ce que tu racontes, les évolutions des armes au fur et à mesure des années, de plus en plus vite, de plus en plus grand, de plus en plus cher, toujours plus grand, toujours plus cher, toujours plus fort, et plus dévastateur, c'est plus pour moi l'exemple d'un monde où on ne prend plus le temps de parler, de dialoguer entre politique et peuple. Un monde un peu capitaliste, un monde une société de consommation dans un monde capitaliste, c'est plus ça que je verrais. Et les jeux vidéo, ça peut ressembler à ça, mais je pense que les jeux vidéo, comme le cinéma, s'inspirent beaucoup de la vie réelle, et peut-être moins l'inverse.
Alors, continuons. Dans le chapitre 5, Olivier Tesquet, journaliste à Télérama, parle d'état d'urgence technologique et termine l'interview en disant que ce qu'il emmènerait avec lui pour faire la révolution, encore une fois, ce serait le papier et le crayon. Dans le chapitre suivant, Mathilde Larère, historienne des révolutions, dit « Je pense qu'il faut développer les moments et les espaces de rencontre et de dialogue. Pour cela, il faut multiplier les lieux ouverts où les gens peuvent se rassembler, discuter, créer des petites assemblées populaires. Cela a pris des formes d'occupation de classe dans certains établissements, des ronds-points dans le cas des Gilets jaunes. Il faut des lieux pour que les gens débattent. C'est pour moi le meilleur espace de politisation, de conscientisation pacifique. Je rêve donc d'un lieu ouvert dans chaque quartier, village.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie fait-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on met chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer. Qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien.
Outre ce livre à cœur protesteur, je signale aussi un autre livre publié suite aux événements de Sainte-Soline, intitulé « On ne dissout pas un soulèvement, 40 voix pour les soulèvements de la terre », qui est un livre où plusieurs personnalités plus ou moins connues ont donné leur point de vue sur la situation, en particulier la situation de l'eau et du scandale que représentent ces méga-bassines. Bon Léo, on fait comment alors aujourd'hui ?
Aujourd'hui, moi, je suis toujours comme beaucoup sidéré, surtout par les derniers événements, cinq dernières années et encore plus ces six derniers mois, tout va de plus en plus vite, de plus en plus loin, ça va dans l'absurde, dans l'autodestruction. J'ai pas de réponse, de solution à apporter, ni de leçon à donner à qui que ce soit. Je suis loin d'avoir fait de ma vie une lutte. Mais ce qui est certain, c'est que je remercierai jamais assez tous les gens qui prennent le temps, au jour le jour, de faire de leur vie une lutte, de défendre des principes de base, du vivre ensemble et d'un avenir pacifique.
Alors c'est vrai qu'on a surtout parlé de la situation en France, où on peut quand même encore faire des manifestations, même si des fois c'est quand même douloureux et risqué. Mais bien entendu, il y a d'autres pays où c'est beaucoup moins simple. Moi, je rêve, mais alors c'est vraiment un rêve, hein, un peu de midinette, hein, tant pis. Moi, je rêve d'un moment de grève générale mondiale, hein, qui mettrait à genoux les tenants du capitalisme, pourvoyeurs d'armes et destructeurs de la planète, et grand égratigneur de la démocratie. Hein. Alors, merci beaucoup, Léo, pour cette émission et pour m'avoir fait connaître ce livre.
Merci à toi, Jacqueline.
Et on va terminer cette émission avec une chanson qui est bourrée d'émotions, parce que c'est une chanson d'un groupe qui s'appelle Yorum, qui est une chanson à cause de la mort d'un jeune Turc lors des manifestations... je crois que c'est en 2014. C'est un jeune, il avait une quinzaine d'années. Il a dû se prendre une grenade dans la tête, enfin un truc horrible. Il est resté de nombreux mois dans le coma et il a fini par décéder. Et cette chanson, elle a aussi été chantée par une chorale en mémoire, parce qu'il est encore en vie, lui par contre, mais pas en très bon état, Serge, ce jeune qui avait reçu aussi une grenade et qui s'est retrouvé dans le coma et qui a eu un mal fou à être à sortir du secteur des bassines et qui donc a eu un énorme souci de santé, et je crois bien que pour lui c'est pas tout à fait fini. Il est sorti du coma, mais ce n'est pas fini. Voilà, donc le groupe Yorum.
Uyan Amerikanım, uyan, 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 Berkin'im uyan. Uyan Berkin'im, uyan Amerikanım, uyan, 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 Berkin'im uyan.
Ölüm yüreğim. Bouillonne, bouillonne, oh belle Kirin, bouillonne, 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 belle Kirin, bouillonne, bouillonne, belle Kirin, bouillonne, oh belle Kirin, bouillonne, 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 belle Kirin, bouillonne.
Monsieur Debré nous a parlé d'hectares, de routes, d'eau, d'aérodromes. Il n'a pas eu de parole pour les hommes, pour les femmes, pour les vieillards, pour les bergers, pour les enfants. On dirait que pour lui, les personnes, ça ne compte pas. L'argent, l'argent, il manque que ce mot à la bouche. Combien ça vaut une famille du Larzac ou d'ailleurs? Je voudrais que quelqu'un me le dise. Ensemble, nous garderons le Larzac. Gardons-le, Larzac!
Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches? Tu hésites? Tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM.